RMC Intégral Tour, Christophe Cessieux.
Nous sommes en direct de Mende ce soir au terme de la 14e étape du Tour de France, remportée par un Anglais, Camise, qui a mis la misère à nos deux petits Français que l'on voyait pourtant vainqueurs d'étape aujourd'hui, Romain Bardet et Thibaut Pinot, qui se sont échappés dans la montée vers l'aérodrome de Mende, mais qui ont été réglés par cet Anglais venu de nulle part ou presque, Tim Cunnings, qui s'impose donc ici. Le classement général ne bouge pas, même si Nairo Quintana passe à la deuxième place, un classement toujours dominé par notre ami Chris Froome, qui a connu quelques soucis aujourd'hui sur la route du Tour. On va en parler dans quelques instants avec Cyril Guimard, avec Thierry Bourguignon et Luc Leblanc. Mais avant cela, messieurs, c'est l'heure de la deuxième édition de RMC Sport avec le retour de Guillaume Lagnel. Bonsoir Guillaume.
Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Le Tour de France est la 14e étape. Je suis en parlais, Christophe. Succès du Britannique Stephen Cummings qui a soufflé la victoire à deux Français, Thibaut Pinot et Romain Bardet. Le maillot jaune reste évidemment sur les épaules de Chris Froome. Le Britannique compte 3 minutes et 10 secondes d'avance sur Nairo Quintana, nouveau dauphin du coureur Sky. Premier Français, Tony Galopin, 9e. En Coupe Davis, la Grande-Bretagne est en ballotage favorable face à la France en quart de finale. Les Britanniques mènent désormais 2-1 avec la victoire des frères Murray en double en 4-7 face à la perte Songa Mahut. Nicolas Mahut d'ailleurs a bien du mal à digérer la pilule.
Je vous cache pas que ce soir c'était très dur. Je prends assez personnellement cette défaite. Arnaud m'a fait confiance, les gars m'ont fait confiance et aujourd'hui je le prends un peu pour moi-même. Voilà, on n'a plus de joker, ça on le sait. On sait aussi qu'il va falloir créer un exploit. Ils sont capables de le faire. De toute manière, on n'a plus le choix. Donc il va falloir rentrer sur le terrain, tout donner et puis espérer que les gars fassent un gros match.
Nicolas Mahut au micro d'Eric Salio à Londres, toujours en Coupe Davis. Sachez que l'Argentine et la Belgique accèdent aux demi-finales. En Formule 1, Jules Bianchi s'est éteint ce samedi à l'âge de 25 ans. Le pilote français était dans le coma depuis le mois d'octobre et son terrible accident au Grand Prix du Japon. Romain Grosjean, seul pilote français en activité en F1 cette saison, était proche de Jules Bianchi. Romain Grosjean.
Le sport automobile reste un sport dangereux. C'est vrai que on le sait et la passion prend le dessus parce qu'on aime vraiment ce qu'on fait. Maintenant, c'est sûr qu'à chaque fois qu'on monte dans la voiture pour des essais ou pour un grand prix, il y a un risque et on le connaît. Mais c'est vrai que là, de la génération de pilotes actuelle, on est tous à connaître ça pour la première fois et c'est un choc pour tous les pilotes.
On passe au football et Benjamin Stambouli sera la deuxième recrue du Paris Saint-Germain. Le joueur qui évoluait à Tottenham cette saison va s'engager ce week-end pour 5 ans. Et puis une nouvelle recrue à Lille, l'attaquant belge du RC Lens, Baptiste Guillaume, 2 buts la saison passée, a signé lui aussi pour 5 ans. Pas de médaille, une immense désillusion pour l'équipe de France d'escrime au championnat du monde à Moscou. L'équipe de France masculine à l'épée, championne du monde en titre, termine 5e. Des regrets également pour l'équipe féminine qui finit au pied du podium. En rugby, c'était une journée de repos méritée pour les Bleus, actuellement en stage de préparation à Tignes en vue de la Coupe du Monde qui débute le 18 septembre prochain. Toujours en rugby aux Four Nations, l'Australie a dominé l'Afrique du Sud sur le score de 24-20. Et puis l'on suit depuis 18h en volleyball la demi-finale de Ligue mondiale entre la France et la Pologne. Et on fait un point tout de suite sur le score en compagnie de Benjamin Glaise.
Et ça se passe très très bien pour les Français pour le moment face aux champions du monde en titre, les Polonais. Les Français qui se sont imposés dans le premier set, 25-23, set très serré. C'est Antonin Rouzier qui a offert ce premier set à l'équipe de France sur un smash rageur, contré hors du terrain par le bloc polonais. Mention spéciale pour la star des Bleus, Erwin Engapet, qui est partout à la réception, au contre et au smash. Et pour le moment, dans cette deuxième manche, ça sent toujours aussi bon pour les Français, 20-17 pour les Français. Seule mauvaise nouvelle, c'est la blessure de Kevin Tilly qui a été remplacé par Nicolas Maréchal.
Merci pour ce point complet, Benjamin. On rappelle que le vainqueur de cette demi-finale affrontera demain la Serbie en finale de cette Ligue mondiale. Pratiquement 19h10. Christophe, on te retrouve pour la suite de l'Intégral Tour.
Exactement, Guillaume, puisque c'est l'heure de nos débats après cette 14e étape et cette arrivée ici sur l'aérodrome de Mende. Toute l'équipe est réunie pour évoquer notamment cette frustration puisque la victoire d'étape a échappé aux Français aujourd'hui et à Thibaut Pinot et Romain Bardet qui se sont peut-être un peu trop observés. On va en parler dans un instant. Tout d'abord, je salue toute la bande. Messieurs, il est temps de mettre vos micros et vos casques. Non, voilà, ça, d'un seul coup, ça se réveille. Thierry Bourguignon, lui, est déjà en place, évidemment.
Hein, on va pas lui faire. Oui. Dans la piscine. Oui. Pour une fois, je suis un peu en avance.
Ça va, Thierry?
Oui, ça va. Ben, je suis frustré comme vous. Hein.
Ben oui, un peu de frustration.
On y a cru. On y a cru à la deuxième étape française.
c'est pas passé loin, mais aujourd'hui c'était la journée des Britanniques sur tous les terrains de sport de France et de Navarre. Luc Leblanc va poser son téléphone pour
Bien sûr.
Bonjour,
Luc Leblanc. D'envoyer un dernier texto. Voilà, et je pense comme d'habitude.
Il prend ses rendez-vous pour ce soir pour la boîte de nuit.
Oui, bien sûr, c'est ça.
Il y a des
avec
métiers
un petit coup de rosé à la clé. Voilà.
Très bien. Cyril Guimard, lui, est en train d'étudier les derniers classements avec notamment. Oui, on vient de regarder le classement de Warren Barguil qui rétrograde un petit peu.
Oui, qui a perdu. Bonsoir d'abord.
Bonsoir Cyril.
Qui a perdu une minute 10 aujourd'hui. Nos Français qui étaient au classement général aujourd'hui, mais on aura l'occasion d'en reparler, eh bien commence à baisser de la tête un peu, il commence à être un peu moins bien. Mais ça, on le savait que Galopin, il n'allait pas passer tous les jours la montagne juste derrière les plus grands grimpeurs. Et puis Warren qui a été, il faut le rappeler, très courageux, qui s'est battu et qui devrait aujourd'hui encore logiquement être dans les 10 premiers. Rappelez-vous, il a été victime d'une lourde chute qui l'a quand même handicapé. Il n'a pas encore retrouvé la totalité de son potentiel, mais il se bat bien aujourd'hui. Bon, il a marqué un peu le pas, mais d'autres aussi. Hein.
Exactement, on va en parler dans un instant. Effectivement, tous ceux qui étaient bien classés, les Français bien classés au général, marquent un peu le pas.
Ceux qui étaient mal classés, qui pouvaient jouer la victoire d'étape, finalement ils ont raté le coup.
C'est pas la journée des Français, faut bien vous le dire, puisque donc Tony Galopin termine 27e à 5,06, soit à moins d'une minute derrière Chris Froome. Pierre Roland est dans le même temps à la 28e place et Warren Barguil donc 35e de l'étape à 5,25. Plus haut dans le classement, nous en avons deux dans les trois premiers, mais malheureusement s'ils sont sur le podium, c'est pas sur la première marche de ce podium, puisque Thibaut Pinot prend la deuxième place et Romain Bardet est troisième de cette étape remportée par un Britannique, Stephen Cummings. Les deux Français qui se sont un petit peu trop observés, qui marchaient dessus, comme on dit, dans le trou dans la montée de la Croix-Neuve, et qui ont été surpris de voir arriver dans leur ombre un certain Cummings qui est arrivé, qui leur est passé devant, qui les a lâchés avec deux, trois virages. Non, Cyril, non.
Non, mais tu peux pas être surpris de voir quelqu'un revenir quand t'arrêtes de rouler.
Il attendait en plus.
T'es capable de te retourner et puis de voir ce qui se passe derrière quand même.
Alors, donc, notre ami Thibaut Pinot qui dit que Cummings a giclé de derrière. Il a pris les cours plus vite que nous, il est arrivé lancé, donc il nous a eu. Il a bien joué. Il a été plus fort et plus malin que nous. Je ne savais pas qu'il était derrière moi. Avec le bruit, je n'entendais rien. Je l'ai vu débouler aux 500 mètres. Je n'avais même pas remarqué qu'il était dans l'échappée. Moi, le dernier que j'ai vu, c'est Uran. Je pensais vraiment que c'était lui derrière moi. Avec Romain, on s'est sans doute trop regardé, oui. Il aurait fallu s'entendre tout de suite. Romain, au début, n'a pas voulu passer, mais bon, c'était tactique de sa part. C'est normal, nous sommes deux compétiteurs, nous voulions tous les deux gagner. C'était une victoire sur le tour qui était en jeu. Résultat, on fait 2 et 3. Voilà la déclaration qui tombe.
Il dit tout à la fin. Tout ce qu'il dit au départ n'a pas de sens. Je suis désolé, on va dire que je fais des polémiques. Attends, t'es échappé, t'arrives à 2, tu regardes quand même ce qui se passe derrière, et puis tu fais. Les deux coureurs doivent se mettre d'accord et assurer. Si vous voulez gagner. Il faut d'abord arriver en position de gagner aux 200 mètres. Et là, ils devaient rouler tous les deux. Derrière, tu sais très bien que si tu commences à te regarder, derrière, attends, ils vont mettre la poignée au fond. Et tu peux pas dire que d'un seul coup, tu es surpris à 500 mètres de voir quelqu'un arriver de l'arrière si tu roules pas devant. C'est logique, c'est normal. C'est les fautes que font les cadets. Je suis désolé de le dire, et je vais peut-être encore m'en prendre plein la tronche.
Tous les jours, t'en
revenais
une.
Non, mais je suis désolé. T'as deux coureurs français qui se retrouvent à 1,5 km de l'arrivée ensemble, qui s'en regardent.
Et qui ne jouent pas le jeu
de dire, attends, ok, il y en a un qui va gagner sur les deux, mais déjà, assurons.
Ouais. Assurons. Allons au sprint et disputons.
Si tu veux faire du surplace, avant le dernier virage, tu regardes une nouvelle fois. Faut toujours se regarder quand on est devant. Et puis tu regardes derrière. Et puis t'es débattant. Si ça vient pas, après tu peux le faire au chat et à la souris. Tu peux jouer au poker, mais pas à deux bornes de l'arrivée. Attends, il a quand même gagné le Tour Med. Attends, il a rien un palmarès.
Oui, bien sûr.
Un gros rouleur. Donc il est lancé comme il était.
Alors Thierry, ils ont roulé comme des cadets aujourd'hui.
C'est facile à dire là maintenant, mais c'est vrai qu'ils pensaient avoir fait le plus dur dans la bosse, et puis ils se sont marqués mutuellement, et il le dit, hein, ils avaient envie de gagner tous les deux, il fallait pas faire le faux pas, ils l'ont fait tous les deux en plus, et c'est le troisième larron qui est lancé de l'arrière, vient les coiffer, et puis après.
Thierry, est-ce que tu te rappelles ce que disait Cyril Gauthier hier après l'arrivée? seule la première classe, la première place.
Ah ben oui,
compte.
Oui, mais c'est peut-être.
Ah mais là, ils sont très déçus. Ils sont évidemment très déçus.
Ils sont très déçus. Ils ont qu'à s'en prendre qu'à eux-mêmes.
Cyril, mais c'est peut-être aussi pour ça. Il y avait que la première place. Ils arrivent à deux et ils ont joué. Bah peut-être comme.
Ah oui, mais pour gagner, il faut déjà se mettre en position de gagner.
Oui, d'accord.
Non, mais quand on dit, j'ai pas entendu ce qui arrivait derrière. De toute façon, ils savaient très bien que les écarts entre les deux et ceux derrière étaient c'était très faible. Donc ils s'attendaient bien à un moment donné, à force de se regarder et puis de jouer au chat et à la souris, que ça allait tellement rentré de derrière. Ouais. C'est ce qui s'est passé avec Cumming.
Lucho, de tout temps, évidemment, il y a eu des rivalités entre les coureurs français. En l'occurrence, ce sont quand même les deux rivaux désignés depuis des années. Ça fait des années qu'ils sont rivaux sur les courses de jeunes et aujourd'hui chez les professionnels. Tous les opposent ou presque, même si Romain Bardet dit qu'ils sont amis avec Thibaut Pinot, mais il y a quand même une espèce de suprématie qui est en jeu, Lucho, là, entre les deux. Non, enfin, non.
Ah, mais de toute façon, les amis, ça n'existe pas en compétition. Quand tu es sur le vélo, que tu es là pour la gagne, il y a pas d'amitié. L'amitié, tu l'oublies. Tu vis et tu cours et tu t'entraînes pour la gagne. Après, qu'il y ait une certaine amitié dans la vie de tous les jours, je suis d'accord. Mais pour la gagne et quand il s'agit c'est d'une compétition, c'est chacun pour soi. Tu oublies les amis. C'est fini ça. Tu cours sur un maillot pour un sponsor. Tu cours pour une équipe. Bardet court pour une autre équipe. Thibaut, c'est pareil. Donc l'amitié, ça n'existe pas dans ce genre de.
Non, mais attends, je vais plus loin que ça. C'est que quand vous vous trouvez en position de gagner entre coureurs de la même équipe et une course importante, même là, ça disparaît.
Mais est-ce que finalement, Thibaut Pinot et Romain Bardet, Thibaut Pinot, il préfère que ce soit Cummings qui gagne ou Bardet?
Non, il savait pas qui était derrière.
Pas, oui.
Il pensait que c'était Uran, il le dit. Donc c'est Uran, à la limite, c'est pas comme ça qu'il faut voir la course.
Oh, mais j'avais l'impression,
on est devant, on assure. Attends, la première chose, c'est d'abord d'assurer qu'on arrive tous les deux si on veut gagner. S'il y a un troisième qui vient, attends, Bardet, il avance comme un fer à repasser. Thibaut Pinot, un tout petit peu mieux, c'est un fer à repasser, on va dire.
Pas dans la montée quand même, tu parles pas de la montée là.
Non, je parle d'arriver au sprint. On a deux coureurs qui ne sont pas des sprinters. Logiquement, je pense que Thibaut va plus vite que Romain. Bon, mais attends, même Cumming, s'il arrive et qu'il se relève, parce que lui il est passé à côté, il s'est même pas posé de question. S'il arrive et qu'il se met dans la route, de toute façon il a gagné. Et il a même pas besoin d'attendre, il est arrivé, il a pris le virage, pof, il avait 15 mètres d'avance, l'affaire était classée. Bon. Mais quand tu sais que tu vas pas vite, et que les deux, il n'y a pas une grosse différence entre les deux, bien que je pense que Thibaut va plus vite que l'autre, mais après, tu fais une faute, tu la fais pas dans le sprint, mais tu laisses pas rentrer quelqu'un quand t'es pas un sprinter.
Ouais, mais Cyril. C'est pour ça que Bardet a joué fin, il savait qu'il avait perdu au sprint, donc il a fait le gars qui voulait pas participer, il est resté dans la roue. Et c'est ce qui les a enterrés d'ailleurs. Parce que le temps de se regarder un petit moment, l'autre était pas loin et flop, il revient sur eux.
Il a mis un coup d'onze-dents en haut. Dire il arrivait à 75
lancé
à l'heure.
Comme il était, c'est clair.
En plus, il est arrivé au bon moment. Il est arrivé au moment où il y avait les courbes. Et en plus, au bon moment où Thibaut était devant, où il vire plus mal que Bardet. Donc ça arrangeait bien Cummings.
Je suis pas sûr que Cummings ait posé la question comme ça. Mais bon.
Regarde, il est passé.
On va écouter. Alors, je vous ai donné la réaction de Thibaut Pinot. On va écouter celle de Romain Bardet. C'était tout à l'heure, derrière les lignes d'arrivée, au micro de Pierre-Yves Leroux. Romain Bardet, troisième de l'étape.
Moi, je savais qu'il fallait que je monte par à coup comme je l'ai fait pour décrocher mes adversaires. Donc c'est pour ça que j'ai attaqué dès le pied. Et je l'ai payé un petit peu sur le haut. Là, je la connaissais pas, la montée était un petit peu longue. Voilà, je marquais exclusivement Thibaut. Je pensais en faire mon affaire au sprint. Donc voilà, c'est dommage parce que Thibaut, on est amis, on se fait avoir. On a tous les deux raté notre tour pour l'instant et voilà, ça aurait été bien que l'un de nous deux puisse gagner. Donc c'est extrêmement décevant. Ça, je fais 6e du tour l'an dernier. J'essaie de faire mieux, voilà, maintenant que c'est râpé, j'aimerais vraiment essayer de remporter une étape, c'est très difficile et voilà, je laisse encore passer une occasion aujourd'hui.
Voilà la déception
ouais,
de
mais les discours
de
à la gentleman parce que c'est des discours à la gentleman, on est amis tous les deux machin truc non
une arrivée
non.
C'est pas Facebook
non Romain
hein.
Romain
tu disais ça toi aussi, tu disais ça, toi aussi quand tu parlais de Richard Viron
on s'appréciait pas plus que ça mais comme je dirais à l'époque Anctil ou tu vois Poulidor ils s'appréciaient pas plus que ça, ils sont devenus très amis après.
Non, ils se respectaient.
Intégral Tour, Christophe Cessieux.
L'intégral Tour de France qui se poursuit toujours en direct de Mende ce soir au terme de la 14e étape du Tour de France qui a vu la victoire de Cummings devant nos deux Français Thibaut Pinot et Romain Bardet au classement général. Au classement général, pas beaucoup de changements, mais tout de même, puisque Chris Froome a désormais un nouveau dauphin, Cyril. Ce n'est plus TJ Van Garderen qui a un peu craqué dans la montée vers l'aérodrome de Mende. C'est désormais Nairo Quintana qui est deuxième au général à 3 minutes 10 de Chris Froome. Qu'on a senti énervé tout à l'heure. Il a sprinté pour passer devant Quintana, lui prendre une petite seconde. C'est vrai que dans le direct, on s'est dit, voilà, c'est encore une fois l'impérialisme britannique qui frappe. Il a vraiment envie d'écraser ses adversaires après avoir passé quand même toute la montée de temps en temps un peu lâché par Quintana, mais il s'est pas affolé, il est revenu tranquillement.
Il n'a pas répondu aux accélérations, mais je voudrais quand même dire que cette montée a fait plus de dégâts que le plateau de Bay où tout le monde a fini dans le même temps. Et si on faisait même des analyses linéaires des écarts en haut de la Pierre Saint-Martin et ici, cette montée de 3 km pratiquement, elle a fait autant sinon plus de dégâts que la Pierre Saint-Martin.
Regardez. Donc quoi, il faut faire que des courses de côte dans le Tour de France.
Sur 3 km, regardez, Quintana a perdu une seconde. Van Garderen en a perdu 39. Valverde seulement 4, à la limite c'est Quintana et Valverde qui s'en sortent à peu près bien. Contador a perdu 19 secondes. Geraint Thomas, bon ça y est, il a baissé un peu le pied, 49 secondes. Et puis si on va plus loin, Tony Galopin, il a perdu 51 secondes. C'est-à-dire que sur 3 km, ça fait plus d'écart qu'un col de 15 km. Et grosso modo, si on fait un peu du linéaire, on arriverait, les 39 secondes de Van Garderen arriveraient à donner à peu près 2 minutes, ce qui a été l'écart à la Pierre Saint-Martin. Valverde est beaucoup plus proche, Quintana aussi, mais il serait à 12 et 3 secondes. Contador serait à 1 minute, donc à la limite, il serait presque un peu mieux. Geraint Thomas serait à 2.30. Et Galopin, il serait à 2.35. Et Nibali aurait pris une 30. C'est-à-dire que quand vous analysez les chiffres, vous vous rendez compte que vous avez quelque chose de pratiquement similaire avec des variations, mais cette montée de 3 km a fait plus de dégâts que la traversée.
Est-ce que ça laisse augurer des choses intéressantes pour les Alpes, Lucho? Parce que les hommes en forme des Pyrénées commencent peut-être un peu à marquer le pas. La chaleur a été présente, la fatigue, les chutes à répétition. C'est un peloton entamé qui va quand même arriver.
On s'en aperçoit aujourd'hui. Sur une montée de 3 km, il y a déjà des dégâts. Et je crois que ces dégâts-là, c'est dû déjà aux Pyrénées, le passage des Pyrénées, avec la très grande chaleur. Donc aujourd'hui, on s'aperçoit que les coureurs sont quand même relativement émoussés. Que la récupération ne sera certainement pas là d'ici les prochaines étapes, et notamment la première étape dans les Alpes. Donc dans les Alpes, on peut s'attendre véritablement à des gros dégâts, si bien sûr, Christophe, il y a la course.
Et en plus, Thierry, je pense que Quintana a pas renoncé du tout à aller chercher le maillot jaune sur les épaules de Froome.
Non, mais en tous les cas, ils ont attaqué, chacun leur tour. Bon, il y en a qui ont présumé de leur force, comme Nibali, parce que Nibali s'est mis dans le rouge, mais il n'a pas récupéré ensuite.
On va écouter Nairo Quintana justement.
Bien. Ouais. Bien. Valverde, dis, Valverde, Quintana, je les ai trouvés bien. Mm-hmm. Bon, Froome. Okay. Fidèle à lui-même, il est excellent, il s'affole pas, il revient gentiment.
Et il disait quoi, Quintana, alors?
Ben, on va l'écouter tout de suite, si vous voulez bien. Nairo Quintana, donc le nouveau dauphin de Chris Froome au classement général. Il est ce soir à 3 minutes 10 de l'anglais.
C'est normal qu'il m'empêche de sortir. Je voulais me montrer et j'avais de bonnes sensations. Je me sentais bien et j'ai essayé de prendre le maillot jaune. Maintenant, nous assurons le podium petit à petit et nous allons retenter d'attaquer dans les Alpes, car l'idée, c'est de récupérer ce maillot jaune. Donc nous allons tout mettre en œuvre pour ça.
Voilà, Nairo Quintana. Daniel est avec nous au 32-16. Il voulait nous parler de Quintana, qui a une nouvelle fois essayé aujourd'hui, même si ça s'est transformé en une seconde de perdu par rapport à Chris Froome. Mais bon, quand même, il récupère la deuxième place générale. Bonsoir, Daniel.
Oui, bonsoir.
Bon, alors, Quintana, dans les Alpes, il va faire la peau à Chris Froome?
Oui, je pense. Quintana, il n'y a plus de contre-la-montre. Il a un atout indéniable dans son équipe, qui est Valverde. Et puis je pense qu'à eux deux, ils peuvent attaquer l'un après l'autre pour essayer d'isoler Froome et essayer de le faire craquer en montagne. Voilà, alors avant Gap, il ne va rien se passer, je ne pense pas, parce que l'arrivée demain à Valence, Je pense pas qu'il se passe grand chose, à part l'arrivée de Greipel au sprint, je pense, et puis à Gap, je pense que l'arrivée après le col de Vence, ce sera une étape pour Baroudeur. Mais par contre, après, effectivement, dans les différents cols entre Saint-Jean-de-Maurienne, la Toussuire, les lacets du Mont-de-Montvernier, si l'équipe Movistar est en ordre de bataille, peut-être qu'elle peut faire mal à l'équipe Sky.
Mmh. Très bien, mais nous verrons ça. Merci Daniel pour cet avis. Cyril, tu partages l'optimisme de Daniel ?
Je m'oblige à partager son avis.
Tu t'obliges. Il t'oblige, oui. Au fond de toi, tu crois pas vraiment, mais bon.
Pour l'instant, sur ce qu'on a vu, ou en plus aujourd'hui, il faut regarder. Bon, vous attaquez, il vous laisse prendre 50 mètres, il se règle, il sait qu'il y a 3 km à 10%, et il se dit, bah, la montée, il faut que je la fasse comme ça. En plus, j'ai une telle avance que même si je perds 10 secondes, c'est pas grave. Mais à aucun moment, je vais me mettre dans le rouge. C'est-à-dire qu'à aucun moment je vais essayer de suivre Quintana, il me prend 10 mètres, 20 mètres, 30 mètres. Moi je ferme les yeux, je suis là, je roule, voilà ma vitesse max. Alors effectivement, si l'autre peut rouler 5 à l'heure plus vite pendant 3 bornes, là c'est pas possible. Donc il vient le repiquer derrière.
De toute façon, il a 3 minutes d'avance, donc ça sert à rien de sauter dans la route Quintana. Il roule à son rythme, il sait très bien que au fur et à mesure.
Oui, mais il a envie d'assommer l'adversité au fur et à mesure, parce que il met quand même des coups sur la tête de Quintana à chaque fois qu'il
termine devant lui. Hein. Et à force de mettre des coups, c'est lui qui les prend.
Ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est que Richie Porte s'était écarté sur chute aussi.
On va y revenir, Thierry, parce que a priori c'est pas sur chute. Enfin, on sait pas exactement ce qui s'est passé, mais évidemment la formation Sky est arrivée très énervée ici à Mende. On va vous expliquer pourquoi. Pierre-Yves Leroux est avec nous dans notre studio, dans notre petit camion. Salut, rebonjour.
Rebonjour,
Monsieur Leroux. Alors, que s'est-il passé aujourd'hui sur la route du Tour? On a entendu tout et son contraire. A priori, les coureurs de la formation Sky ont été victimes d'actes de malveillance de la part des spectateurs et notamment le leader du classement général, Chris Froome.
Exactement, c'est particulièrement le maillot jaune Chris Froome qui a été visé aujourd'hui. Après 50 à 60 kilomètres de course, il a aperçu un spectateur sur le côté de la route avec une tasse. Il s'est douté qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas aller. Et effectivement, il a reçu de l'urine à ce moment-là. Donc ce que je vous propose, c'est d'écouter la version de Chris Froome. C'était tout à l'heure en conférence de presse après l'arrivée.
There was a fan earlier on in the race who...
Il y a un fan qui pendant la course m'a renversé une petite tasse d'urine en criant dopé et en me montrant du doigt. Pour moi, ce n'est pas acceptable, c'est anti-sportif. Nous sommes des professionnels, nous faisons notre métier, les gens n'ont pas le droit de faire des choses comme ça, c'est scandaleux. C'est vraiment malheureux que quelques individus puissent faire ça. Nous avons un soutien formidable au bord des routes. Il y a énormément de monde pour encourager tous les coureurs, pas seulement nous. Je veux remercier ces personnes, mais c'est une honte qu'une ou deux personnes gâchent tout ça. Très remonté Chris Froome. Et puis il y avait déjà eu il y a deux jours me semble-t-il, trois jours,
c'était dans l'ascension de la Pierre Saint-Martin, première étape des Pyrénées, lorsque Chris Froome a un peu assommé le Tour de France. Richie Porte a été victime d'un spectateur, c'est ce qui l'a expliqué tout à l'heure à un journal anglais qui est paru ce matin. Donc il aurait reçu des coups d'un spectateur, c'était lors de la première étape dans les Pyrénées, hein. C'était donc avant que on ne parle de rumeurs, de suspicions
avant Froome ne soit maillot jaune.
Avant que Froome ne soit maillot jaune. Bon, évidemment, c'est terrible ce genre de choses. Il faut rappeler à tout le monde que c'est pas la première fois que sur le Tour de France de telles histoires arrivent. En 1975, me semble-t-il, Eddy Merckx avait été victime d'un spectateur qui lui a eu un coup de poing dans le Puy-de-Dôme, un coup de poing au foie, le coup de poing de la honte. Et puis, mais là c'est dans des temps très très lointains, dans les premiers Tours de France, le deuxième Tour de France, je crois, avait failli être interrompu par Henri Desgranges, Cyril, parce que des spectateurs, des supporters de certains coureurs attendaient leurs adversaires dans certains villages et les rouaient de coups à coups de bâton. Bon, là, c'était en 1900 et quelques. Mais bon, malheureusement, il reste encore des hommes préhistoriques sur le Tour de France et sur les bords des routes. Il y en a toujours.
Mais il y a deux ans seulement, Mark Cavendish avait reçu également de l'urine après avoir était dans un sprint un peu critiqué sur l'étape suivante. Il avait reçu de l'urine également.
Malheureusement, dans la caravane publicitaire, les jeunes filles qui jettent les objets racontent que
se font insulter régulièrement.
Mais de l'urine, franchement, c'est la stupidité. Là.
Ouais. Ouais. Alors, évidemment, nous sommes montrés du doigt par certains. Nicolas Fritsch, ancien coureur professionnel, nous dit. Attends, je t'explique ce qui est sur les réseaux sociaux. Nicolas nous dit merci à certains médias qui contribuent aux réactions malsaines des spectateurs. Voilà. Donc évidemment, c'est la faute des médias.
Je dirais à Nicolas qui marque quel média et pour quel type. Eh bien, pour quel type de propos?
Voilà, donc c'est de la suspicion, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que nous sommes qualifiés d'exciter les foules.
On n'a pas le droit de se poser des questions. On n'a pas le droit de poser des questions.
Non, mais le problème, c'est pas ça. C'est que RMC, sur les millions de téléspectateurs dans le monde et d'auditeurs dans le monde, j'ai bien les millions, si c'est RMC, il faut le dire, on touche combien de spectateurs par rapport aux millions? Donc alors que Nicolas, que j'aime bien au demeurant, bah, qui dit quels sont les médias qu'est-ce qu'ils comportent, mais qu'il dit carrément les choses.
Lucien, sur le hashtag RMC Live, dit voilà ce qui arrive quand on lance n'importe quelle polémique. Vous le vivez comment? Vous êtes bien dans vos baskets ce soir, monsieur?
Totalement.
Bon, très bien. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez.
Est-ce que c'est une polémique, c'est dire que les Français qui étaient devant aujourd'hui ont couru comme des cadets, est-ce que c'est ça, lancer une polémique qui peut amener à des écarts de comportement des spectateurs? Est-ce que c'est ça?
Oui.
Parce que si c'est ça, il faut couper toutes les antennes, on fera le Tour de France sans médias.
Mm-hmm. Ton avis là-dessus, est-ce qu'on est responsable de,
mais non, qu'est-ce que tu en penses? De toute façon, les médias, ils ont le droit à la parole et le droit d'expression. Donc,
et on n'a jamais incité à la haine et à jeter de l'urine sur les spectateurs.
On dit des choses, surtout pas. Moi, je suis peut-être pas d'accord avec Cyril, je suis pas d'accord avec Thierry, mais c'est pas pour autant que un spectateur ou plusieurs spectateurs.
Non, mais c'est pas le fait qu'on soit pas d'accord qui fait.
Moi, je comprends pas l'attitude des spectateurs. Je comprends pas. Franchement, j'ai du mal à comprendre la réaction de certains. Bon, c'en est un sur les milliers qu'il y a eu aujourd'hui qui a fait ça, voilà, et on parle de lui, quoi. Le problème, est-ce qu'on doit rester se fixer sur cet individu parmi les milliers de spectateurs qui sont sur les routes, il y a des débiles partout dans les stades de football, évidemment, dans les stades de rugby, plus on va en parler de ce spectateur-là, et plus peut-être ça va attiser aussi, est-ce que les médias sont responsables des
spectateurs qui ont jeté des clous de tapissier sur les routes il y a 3 jours. Bon, je veux bien qu'on soit responsable du tout, mais
et puis il y a des dizaines d'années, on envoyait déjà des clous sur les routes, à l'époque où les médias
ce genre de personnage n'a besoin de personne pour faire des bêtises pareilles, c'est tout.
Bon, très bien. Évidemment. Si vous voyez des spectateurs faire ce genre de choses, on peut aussi faire la police entre spectateurs. Et si vous voyez des gens faire ça, il faut essayer de les empêcher de le faire parce que c'est terrible. C'est un manque de respect total pour ces grands champions. C'est terrible. Franchement, moi, je suis dégoûté de voir ça.
Je ne me sens aucunement responsable en général. Et les sportifs.
D'ailleurs, moi, je conseille
dans les stades de foot n'est pas mieux.
Honnêtement, moi, je conseille aux spectateurs qui sont sur le bord des routes, quand ils voient un individu pareil, de le prendre et de l'emmener carrément à la gendarmerie. Là, sur le bord de la route, t'as la garde républicaine, t'as tout ce qu'il faut. Et parce que ça, c'est une honte quand même. Tu es sur la route, tu es sur le Tour de France, tu passes au travers de plusieurs milliers de spectateurs et tu peux t'attendre à tout parce que t'as pas les barrières, t'as pas la sécurité, t'as les motos qui t'ouvrent, tu peux tomber sur un individu complètement débile, quoi. Donc à un moment donné, ceux qui sont autour, n'ayez pas peur, quoi. Prenez-le et la garde républicaine va s'en charger après.
Ligotez-le.
Pierre-Yves.
Surtout, c'est de se mettre à l'anglais et de bien écrire Peace and Love. Voilà. C'est ça qui nous sauvera.
C'est très bien. L'humour passe sans rire de notre breton.
C'est le message, non? Peut-être.
Voilà. Très bien. 19h42 sur RMC. On va se quitter quelques instants. On va revenir pour vous parler d'une autre histoire. Une autre histoire complètement dingue qui est arrivée tout à l'heure au leader de la formation Bretagne Séché. Georges Quirino va nous raconter
surréaliste.
Ça. Ouais, surréaliste. On est bien triste ce soir pour Sébul Veda, mais là, il a fait quand même une bêtise. On va en parler. Dans quelques instants, restez avec nous, l'Intégral Tour, jusqu'à 20h pour les débats et à partir de 20h jusqu'à 20h30 pour vos questions à Luc Leblanc et à Thierry Bourguignon. A tout de suite sur RMC.
RMC, Intégral Tour, Christophe Sessieux.
Et avant de continuer notre débriefing de la 14e étape du Tour de France, on va faire un petit tour sur la demi-finale de Ligue mondiale de volley. L'équipe de France est opposée à la Pologne. Benjamin Glaison, est-on?
Les champions du monde en titre qui reviennent dans la partie pour le moment. Toujours 2-7 à 0 pour les Français. Ils ont remporté les deux premiers sets 25 à 23. Mais là, les Polonais sont revenus dans ce troisième set. Ils mêlent 24 à 18. Et donc, balle de 7 pour les Polonais. La première vient d'être effacée. 24-19 donc pour les Polonais. Encore plusieurs balles de 7 pour les Polonais. Donc je vous le rappelle, 2-7 à 0 toujours pour les Français actuellement, Christophe.
Ok Benjamin, à tout à l'heure pour la suite de cette demi-finale et peut-être une place en finale, ce serait la première fois pour l'équipe de France, toujours dans notre petit camion studio au sommet, ici sur la piste de l'aérodrome de Mende, avec Cyril Guimard, avec Thierry Bourguignon, avec Luc Leblanc et avec Georges Quirino qui nous a rejoint. Bonsoir Georges.
Bonsoir à tous.
Qui est arrivé tout à l'heure en courant, complètement essoufflé, pour nous balancer une histoire, parce que le Tour de France
c'est une histoire incroyable.
Est faite d'histoire, et celle-là est complètement incroyable. Tu vas donc nous raconter ça. Elle concerne le leader, celui qui était le leader de la formation Bretagne Séchée, Sepúlveda.
Oui, Eduardo Sepúlveda, 24 ans, qui est argentin, qui était ce matin 19e du classement général à 28 minutes 19 du maillot jaune Christopher Froome. C'est le leader de l'équipe Bretagne Séchée Environnement qui est invité sur ce Tour de France. Oui, mais voilà, notre ami Eduardo, il a eu un petit problème à 32 km 500 de l'arrivée dans la côte de Sauveterre. En fait, il a cassé la chaîne de son vélo. Son manager Emmanuel Hubert est passé à côté de lui sans le voir parce qu'il était caché par une voiture. AG2R La Mondiale, gentiment, et son manager Vincent Lavenu s'est arrêté au niveau du coureur. Il pensait qu'il avait un problème de roue en fait. Il voulait lui donner le dépanner d'une roue. Bah, sauf qu'en fait, c'était pas ça, c'était la chaîne qui était cassée. Et là, c'est Vincent Lavenu, le manager d'AG2R, qui nous raconte la suite de l'histoire. Vincent Lavenu.
Sepúlveda a sauté dans ma voiture à l'arrière avec le mécanicien en me disant vas-y. Voilà, genre, moi j'ai pas eu le réflexe de le mettre dehors à ce moment-là. Lui il a pas eu le bon réflexe de parce qu'il aurait pas dû faire ça. J'ai fait 70 mètres et il est ressorti la voiture, voilà, c'est tout. Il aurait fallu que je dise mais dégage, qu'est-ce que tu fous là? Mais non, c'est pas le réflexe que j'ai eu tout de suite, bien sûr, voilà.
Donc, il est en panique quand tu l'as vu monter.
Ah bah oui, mais on m'a étonné de le voir pourquoi il saute dans ma voiture, quoi. Ça aurait été la voiture Movistar derrière, il faisait pareil, quoi. Donc c'est une question de circonstances, quoi, mais bon, ça me fait mal au cœur pour le gamin et pour Manu, quoi.
Et oui, ça fait mal au cœur parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Ils font ses 70 mètres en voiture, ils sortent de la voiture devant Emmanuel Hubert, le manager de Bretagne Séchée, qui voit ça, il fait mais qu'est-ce qu'il
fait dans la bagnole?
Qu'est-ce qui se passe? Sauf qu'en fait, Emmanuel Hubert, il comprend tout de suite, il dit voilà, mais c'est terminé. Bah oui, là il y avait un membre du jury des commissaires qui était à côté, qui a fait le signe de la croix. C'est terminé, monsieur Sepúlveda.
Comme dans une course,
on s'arrête.
De marche, un 50 km de marche, on s'arrête.
Meilleure course, ils ont prévenu Emmanuel Hubert. Emmanuel Hubert a dû prévenir son coureur revenir derrière lui pour lui expliquer ce qui s'est passé, et il a dû s'arrêter d'Ordo Sepúlveda. Emmanuel Hubert, que j'ai rencontré juste après, est-ce qu'il était en colère contre son coureur? On l'écoute, Emmanuel Hubert.
Non, je vais dire, c'est une erreur de jeunesse, c'est une erreur de panique. C'est un gamin qui est tout neuf dans le vélo, donc sa culture cycliste est peut-être encore en deçà de nous par rapport à nos écoles de cyclisme. Mais il fait l'erreur et donc c'est obligatoirement puni. On est victime d'une histoire, je veux dire, qui moi, en 12 ans de métier, ne m'est jamais arrivé de louper un coureur sur le bord de la route déjà. Mais là, toutes les circonstances étaient réunies, un bris de chaîne, donc c'est impossible de pédaler. Une voiture qui veut le dépanner pour nous rendre service. Bah après le gamin il est là dans la panique, il veut faire bien les choses, il veut rejoindre la voiture au plus vite pour combler son retard, pour aller chercher son vélo. Pas pour tricher, pour aller chercher seulement son vélo.
Voilà, et je termine juste sur cette déclaration d'Eduardo Sepúlveda sur Twitter, parce qu'il n'était pas ici à l'arrivée à Mende, évidemment, on aurait aimé le voir. Eduardo Sepúlveda qui nous dit « J'ai fait une erreur stupide pour ne pas perdre le peloton. Désolé à toute l'équipe. »
Ah ouais, c'est triste pour ce gamin. Ouais,
oui,
c'est,
non,
c'est...
Mais...
Hein, on va pas...
Non, là, on est triste pour lui. Et en plus, c'est pas pour chercher à tricher. Il y a pas.
Mais non, il était.
Il y a
la panique, quoi.
Il y a pas de lézard derrière. Il y a rien. J'ai presque envie de dire. Et si le commissaire avait.
Mais oui, mais
non. Non, mais attends, je vais finir. Bon, et si le commissaire avait compris ce qui se passait, il tourne la tête et il s'en va. Il se passe rien.
Mais le commissaire,
il n'a pas cette présence.
Il ne sait pas depuis combien de temps il est dans la voiture. Il se dit peut-être qu'il est dans la bagnole depuis le départ de l'étape.
Je ne fais pas le procès, parce qu'on me dit je fais encore une polémique. Je ne fais pas le procès du commissaire qui fait exactement ce qu'il doit faire. Parce qu'à ce moment-là, effectivement, il ne comprend pas ou il n'a pas vu ce qui s'était passé avant. Et je veux dire, on va être plein de regrets par rapport à tout ce qui a amené à cette mise hors course d'un coureur qui est
même
qui
le commissaire à mon avis
sur le Tour de France.
Même le commissaire à mon avis il va regretter. Alors n'aurait-il pas fallu de la part du commissaire de laisser continuer Sepúlveda à faire la course jusqu'à Mende et après d'en tirer les conclusions et de savoir ce qui s'est réellement passé après. Alors c'est vrai que c'est sur le vif comme ça
tu montes dans une voiture hein, là faut pas
la seule chose c'est qu'il aurait fallu que le commissaire voie ce qui s'est passé avant, comprenne les choses, mais au niveau de l'affect. Mais rien ne dit que si il avait tourner la tête volontairement, lui serait pas pris un carton rouge, le commissaire.
Eh oui, c'est ça. Évidemment, il a fait que son métier.
Hein. Et par ailleurs, Vincent Lavue, manager d'AG2R à la mondiale, est-ce qu'il va pas être sanctionné lui aussi? J'en parlais avec lui tout à l'heure, il savait pas trop.
Dans la logique, si on va au bout de la logique, il devient complice. D'une triche.
C'est lui qui fait la faute. C'est lui qui fait la faute.
L'équipe a joué des armes.
Ouais, mais bon, le type, il rentre dans ta voiture. Qu'est-ce que tu fais?
C'est les trucs.
Dégage un coup de pied ou quoi?
Non, mais ça, c'est les trucs improbables.
Ça t'est jamais arrivé, Cyril, ça?
Non, ça m'est pas arrivé, sauf avec un mécano. Alors, je vais vous expliquer.
Rapidement, il reste 2 minutes.
Une crevaison, le mécano dépanne le coureur de mon équipe. J'entends la porte qui se ferme, donc pour moi il est remonté dans la voiture, donc j'en repars.
Sauf que le mécano sur le bord de la route.
Sauf que la porte, c'est pas lui qui l'a fermée, et il est sur le bord de la route, et je vois.
Il y est encore.
Il y est pas encore parce que il a arrêté notre voiture derrière, et il est monté dans l'autre voiture, et puis d'un seul coup, moi je me retourne pour voir, merde, j'ai plus de mécano. Et d'un seul coup, je le vois arriver dans une voiture de VIP qui était là, et il me fait, Cyril, coucou.
Très bien. C'était le mécano.
Messieurs, voilà l'histoire de Sepúlveda, histoire triste pour le coureur argentin de la formation bretonne séchée. Et malheureusement, c'est la loi, c'est le règlement.
Mais ça va faire la une chez lui dans son pays.
Ah oui, mais je sais pas si ça va faire la bonne une. Messieurs, on va parier puisque demain c'est la 15e étape entre Mende et Valence.
Les paris RMC Tour de France.
Avec Benji. Benji, bonsoir.
Bonsoir, messieurs.
Salut, Benji.
Alors, salut, pas de changement, maillot jaune. Tous les maillots restent sur les épaules des différents leaders depuis quelques jours.
Non, c'était pas terrible aujourd'hui.
Demain, 15e étape, donc demain, quels sont les favoris de cette étape entre Mende et Valence? On a quand même quelques côtes, hein. 3e, 4e catégorie.
Bon, la dernière,
le
col, 126
kilomètres. Le
km,
col de l'Escrimé, qui est à très loin de la dernière l'arrivée.
50 kilomètres, non?
Voilà.
50
et ensuite, ça descend jusqu'à Valence. Et c'est tout plat jusqu'à Valence. Les favoris, Benji.
Et le favori, c'est Peter Sagan, cote de 5. Trois coureurs dans un mouchoir de poche avec Marc Cavendish, 5,60. John Degen Kolb également 5,60. Vu que la cote est assez importante, moi je vais tenter Greipel avec une cote de 9, même s'il y a effectivement une cote, mais elle est assez loin de l'arrivée, donc je vais tenter Greipel.
C'est pas une cote, c'est un col, hein. 8 km à 5,8% quand même, hein. C'est pas.
Et Greipel, alors, ça m'étonnerait.
Est-ce que Greipel ça passe, ça, Thierry?
Moi, à mon avis, il passe pas là, hein. Surtout que il a montré un peu des signes de fatigue, hein.
Alors ton favori pour demain, il nous reste 2 minutes.
Moi c'est Sagan.
Peter Sagan demain, d'accord, tu continues d'y croire.
Il y a un moment qui va tomber, non?
Ouais.
Peut-être. Du moins, pas tomber. Et attention, aujourd'hui il aurait pu revenir gentiment, hein.
Ouais, 19 secondes. S'il n'y avait pas eu la bagarre dans la montée, il aurait pu effectivement régler tout le monde. Lucho.
Ah, moi j'ai maillot jaune dernier.
Bon. Cyril. Ils sont trois des règles.
Tu n'auras que 5 secondes pour t'exprimer. Cyril.
Eh bien, moi je...
Même pas.
Je vais jouer Degenkolb.
Oui.
Degenkolb et Coquart.
Degenkolb et Coquart. 5 et 5. Pour Cyril Guimard.
Ouais.
Lucho, vas-y. C'est à toi maintenant.
Bon, ben c'est fini.
Ok, il passe son tour pour demain.
Degenkolb.
John Degenkolb.
Ah ben ça y est, tu copies.
Degenkolb.
Voilà, et ben moi je vais dire.
Je vais dire Degenkolb.
Ouais, c'est Sagan, je vais te suivre. Tiens, mon Thierry, comme ça,
il va gagner, tu verras.
Il va y arriver.
Et Virginie va transmettre évidemment Cavendish, hein, messieurs.
Cavendish pour Virginie.
Ah, quand même.
Benji, est-ce que je peux te donner une info pour
rapidement, très rapidement.
C'est oui. Alors c'est simple, vous savez, il y a un col au 69e kilomètre.
Ouais.
Et ça s'appelle le col du Bèze. Alors je sais pas qui. Oui. Bon, allez, vous ferez la suite tout seul.
Très bien, c'est terminé pour les paris. On se retrouve demain pour les paris.
PMU.fr, paris sportifs, paris hippique, poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Georges Quirino a une information.
La vraie information. Vincent Lavenue, le manager de l'équipage de l'Isère Mondiale, a pris une sanction de 100 francs suisses.
Voilà. 100 francs suisses.
200 francs suisses pour Eduardo Sepúlveda. Pour Eduardo Sepúlveda, 200 francs suisses.
Ah, 200 francs suisses, c'est viré.
Et le retour en Argentine.
Ah ouais, ouais, c'est sympa. Merci les commissaires. Ouais, ouais. Ils auraient pu se dispenser de l'amende, non?
C'est un règlement, c'est un règlement.
Parfait. Enfin, pas parfait. Moi, je trouve ça un peu dommage. Martial Fernandez est là avec nous. Quoi, Cyril? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas le droit d'exprimer. On n'a plus le droit de rien dire ici. Maintenant, on est censuré totalement.
Non, mais, tu vas provoquer la zizanie.
Ouais, ouais. Et après, les
en attaquant les commissaires.
Les spectateurs vont jeter de l'urine sur la tête.
On plaisante.
Commissaire. Martial, je te laisse deux argument,
normalement, Christophe, c'est pas le taxi qui paye, mais là, bon, c'est l'avenue qui paye. C'est bizarre, votre histoire de transport. Merci, Cyril. Christophe, merci. Ouais, je vais garder Thierry et Lucho pour répondre à toutes vos questions au 32-16 ou sur le hashtag RMC Live. Et après, on ouvrira notre page foot à partir de 20h30 et ça durera jusqu'à 23h avec l'after.
RMC Intégral Tour.